journal. Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La France, désert médical estival. C'est la grande crainte dans les hôpitaux. Manque de personnel, fermeture de lits. Partout, la situation est encore plus tendue que d'habitude à l'approche de l'été. On va l'entendre dans un instant. Plus de masque obligatoire avec son titre de transport. À partir d'aujourd'hui, ce sera au choix. Parole de voyageur à suivre. En attendant, là où le prochain Premier ministre, ce serait pour aujourd'hui ou pour demain, 3 semaines après la réélection d'Emmanuel Macron. On anticipe avec vos invités, Nicolas.
3 invités ce matin dans le grand entretien. Jérôme Fourquet, Corinne Laïc, Vincent Martini. Et toutes vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000.
Le burkini autorisé dans les piscines de Grenoble, la décision du conseil municipal attendue aujourd'hui, elle divise la gauche, on va le voir. Quand l'État russe récupère les actifs de Renault, conséquence des sanctions européennes, la nouvelle vient de tomber. Dans ce journal aussi, des bouquetins à abattre en Haute-Savoie. Et Gaston Lagaffe, en litige, peut-il renaître malgré la mort de Franquin, son créateur? La justice belge en décidera ce lundi.
France Inter.
Comment remplir les plannings? Combien de lits condamnés? Faudra-t-il fermer des services d'urgence entiers? Sur la pile des dossiers qui attendent le ou la future ministre de la Santé, celui-ci est tout en haut. Faire tenir l'hôpital cet été, malgré le manque de blouses blanches aggravées par les congés. Aperçu de la situation avec Victor Delande.
À l'hôpital d'Orléans, le personnel des urgences est en grève depuis plusieurs semaines pour protester contre le manque de moyens. Les patients attendent parfois plusieurs jours sur des brancards dans les couloirs. Mathieu Lacroix, médecin urgentiste, prévoit déjà un été très chargé pour les soignants.
Vous faites énormément d'heures par semaine, vous faites beaucoup plus de gardes que ce qui se fait habituellement. On viendrait travailler probablement tous les week-ends de ce mois-là. L'épuisement physique ou psychologique des personnels augmente aussi à ce moment-là.
À Marseille, les traumatologues viendront en renfort aux urgences. Le SAMU fera du sur-mesure dans la régulation des appels. Mais Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale des hôpitaux de Marseille, redoute un autre problème.
Les hôpitaux de Draguignan, de Manosque, en particulier l'hôpital d'Aix-en-Provence, ferment régulièrement leurs urgences. Les touristes qui seront tous dans notre région vont arriver en bout de chaîne sur les hôpitaux de Marseille. On s'attend à ce que ça tangue beaucoup pendant l'été.
Et pas question de compter sur les soignants intérimaires pour combler les trous dans les plannings, comme l'assure Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
On fonctionne déjà avec l'intérim, donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Et les intérimaires, mais ils gagnent suffisamment bien leur vie pour prendre des vacances aussi l'été. On n'est plus dans la situation où on avait besoin d'intérim uniquement l'été.
Dans la plupart des hôpitaux du territoire, les médecins redoutent le pire, une perte de chance pour les patients et même un risque de surmortalité pendant la période estivale.
Pour éviter la catastrophe, il faut absolument que les généralistes étalent leurs congés comme les personnels hospitaliers, exhortait hier Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, dans le journal du dimanche. Les hôpitaux qui continuent à soigner les malades du Covid, 19 000 en ce moment, 90 morts par jour, et qui sont désormais le dernier endroit où le masque reste obligatoire, puisque dans les transports, c'est fini. Ce lundi, ceux qu'ils voudront s'en passeront dans les avions, les bus, les métros, les trains. Alors avec ou sans, Pierre-Antoine Lefort a posé la question aux voyageurs de Rennes.
Juste avant de prendre son train en gare de Rennes, David le confesse, ce masque, il en a par-dessus la tête.
Parce que moi récemment, j'ai pris plusieurs avions de 11h, là je vais faire 4h30 de train et c'est particulièrement chiant.
Le masque va donc pouvoir rester dans la poche, mais David l'assure, il continuera à se laver régulièrement les mains et à respecter les autres gestes barrières. Mathis devrait lui aussi se passer du bout de tissu, même s'il est prêt à le sortir à nouveau.
Par exemple, si je sens qu'il y a une petite remontée de l'épidémie, ou si moi-même je suis un petit peu malade, etc. Pourquoi pas? Mais après, non, s'il est plus obligatoire, je vois pas vraiment l'intérêt de le garder.
Jean, de son côté, verra bien et prendra exemple sur ses voisins de wagon.
Moi, je suis le mouvement, je fais un peu comme tout le monde. Si je vois qu'ils l'ont, c'est qu'ils ont envie qu'on le mette, alors je fais comme eux. Je vais dans le sens du poil, comme on dit.
Car il y en a, hein, qui ne l'enlèveront pour rien au monde.
Je trouve ça dangereux et c'est un petit peu dommage.
Le cas d'Elisabeth et de son mari.
C'est prématuré. Il y a beaucoup moins de tensions dans les hôpitaux. Mais de dire c'est terminé, youpi. Ce qui est certain, c'est que pas mal de personnes fragiles et peut-être âgées garderont évidemment leur masque.
Le masque qui reste d'ailleurs recommandé par le ministère de la Santé.
Avec encore 36 000 cas de contamination par jour. Reportage France Bleu Armorique de Pierre-Antoine Lefort. En Chine, les habitants de Shanghai vont pouvoir souffler. La ville vise le déconfinement complet à partir du 1er juin. Les supermarchés, les pharmacies, les salons de coiffure vont pouvoir commencer à rouvrir dès aujourd'hui. En revanche, c'est le branle-bas de combat en Corée du Nord où Kim Jong-un a laissé éclater sa colère contre les autorités autorités sanitaires et le gouvernement qui n'en font pas suffisamment contre le Covid. Le leader ordonne à l'armée de se mobiliser. La Corée du Nord annonce officiellement 50 morts et plus d'un million de cas de fièvre.
Il est 8h05, il a fait ses cartons et il attend.
Jean Castex, démission imminente maintenant sans doute aujourd'hui ou demain, et le Premier ministre parle déjà de ce qu'il attend dans ses Pyrénées, repeindre ses volets et sa rambarde. Voilà ce qu'il dit aux Parisiens ce matin. Loin des sujets brûlants du quotidien d'un Premier ministre, sommé d'avoir un avis sur tout. Faut-il autoriser le burkini dans les piscines grenobloises, par exemple? Après des semaines de polémiques, le Conseil municipal doit voter aujourd'hui sur cette promesse du maire écolo Éric Piolle, qui veut lever les restrictions sur les tenues de bain dans ses piscines, comme le demandent ces militantes que vous avez rencontrées, Sophie Constanzer.
Le mot burkini n'est jamais mentionné dans l'article 10 du nouveau règlement des piscines municipales soumis au vote et il n'est jamais prononcé par Yasmina qui préfère parler de maillot de bain couvrant.
On milite pour qu'on puisse porter le maillot de bain de son choix, c'est-à-dire un monokini, un maillot de bain couvrant, un maillot de bain classique. On ne prêche pas que pour notre paroisse.
Active au sein du syndicat des femmes musulmanes de Grenoble, Yasmina insiste, elle milite, selon elle, pour toutes les femmes.
Nous, on voudrait aller en maillot de bain couvrant, une autre personne juste avec le haut du maillot et avoir une culotte classique et vice-versa, un legging parce qu'il y a quelqu'un qui a des brûlures au niveau des cuisses. Enfin, vous voyez ? Et en fait, tout ça, ça a été balayé.
Le syndicat a été créé en 2018. À l'époque, des femmes du quartier Tesser au sud de Grenoble dénoncent les discriminations dont elles sont victimes quand elles accompagnent par exemple leurs enfants à la piscine. Et Amel pense alors qu'il s'agit d'une bataille facile à gagner.
C'est vrai que si on m'avait dit ça en 2018, je me serais dit, bon bah, ça craint quoi.
On se sent aussi instrumentalisé parce que du coup là, ça prend une proportion folle. C'est un focus sur Grenoble, ça devient national.
Pour Anissa, c'est parce que la revendication est portée par un syndicat de femmes musulmanes qu'elle fait polémique.
La piscine, on va dire, ouais, c'est un symbole parce que ça cristallise énormément de choses, mais c'est pas que la piscine. Ça fait ressortir un point commun, c'est qu'il y a un problème avec l'islam en France.
Et ces militantes précisent qu'elles sont passées par un dispositif d'interpellation citoyenne et qu'elles n'ont jamais rencontré le maire en personne.
Si l'autorisation est donnée, le préfet de l'Isère annonce qu'il saisira le tribunal administratif. En attendant, trois manifestations sont prévues aujourd'hui devant la mairie de Grenoble. L'une à l'appel de l'ancien maire RPR Alain Carignon, l'autre du syndicat de droite UNI, la troisième organisée par une association de femmes élues de l'Isère. En sachant que la séance du conseil municipal s'annonce tendue. Antoine Gignot, tant le sujet divise la majorité sur place et entame même l'accord de la NUP entre la France insoumise, les Verts et les socialistes.
Pour les écologistes, le débat a déjà eu lieu. La loi est très claire, les vêtements de type burkini sont autorisés dans les piscines, ils le sont d'ailleurs déjà à Rennes, explique Sandra Régol. La numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts parle d'instrumentalisation des questions de différence et de religion. Un comble, s'exclame une responsable socialiste qui s'insurge sous couvert d'anonymat contre la décision d'Éric Piolle et les remous qui en découlent. Il faut se rappeler, dit-elle, que dans l'accord signé entre le PS et la France Insoumise, il est fait mention de la lutte contre les discriminations, mais là, c'est de la surenchère électorale. Pas une fois, les habitants n'ont fait une demande de baignade en burkini, précise un observateur local encarté au PS. Les Verts nous pourrissent la campagne. Aucun cadre n'en parle au micro, mais c'est typiquement le sujet qu'il fallait éviter, commente sobrement un élu de la France insoumise. On ne peut pas exclure une hypothèse dans cette histoire, conclut un cadre du PS, celle de la bourde. On cherche toujours, dit-il, à comprendre le calcul politique, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'imbéciles que de comploteurs.
Éric Piolle sera l'invité du 13-14 de Bruno Duvic.
Inter, il est 8h08, la suite du journal. Florence Paracuelos.
Une tuerie raciste qui consterne le secrétaire général de l'ONU, comme Joe Biden, qui parle d'une tâche sur l'âme de l'Amérique. Il se rendra sur place à Buffalo demain, au chevet de la communauté afro-américaine en deuil depuis samedi. 10 morts, 3 blessés, dont 11 étaient noirs. Le tireur, un jeune homme de 18 ans, a fait 300 km pour perpétrer son massacre après avoir publié un manifeste raciste. Contre-productif pour le Kremlin, la guerre en Ukraine est en train d'élargir. L'OTAN, la Finlande et la Suède renoncent à leur neutralité et veulent à leur tour appartenir à l'Alliance Atlantique. La Finlande l'a officiellement demandé hier, la Suède va lui emboîter le pas. L'Ukraine, qui peut gagner contre la Russie, les mots du secrétaire général de l'OTAN hier, alors que l'offensive siglée Z est à la peine face à la résistance ukrainienne dans le Donbass. On s'intéresse ce matin au rôle de l'église orthodoxe russe, très influente en Ukraine, accusée de faire le jeu de Vladimir Poutine. Reportage à 70 km de la frontière russe, Valérie Krova.
Les soldats russes sont arrivés pour la première fois à Konotop le 24 février. Surpris par la résistance de ses habitants, ils sont venus une semaine plus tard pour assiéger la ville. Le maire, qui est aussi lieutenant dans l'armée ukrainienne, a refusé de déposer les armes. Arten Semenikin a réussi à faire reculer les forces russes. Ce nationaliste pur et dur voue une haine tenace aux hommes de l'Église orthodoxe russe.
Ce sont des agents du Kremlin. Non seulement ils font de la propagande, mais ils ont aidé les occupants en leur donnant des informations pour qu'ils puissent ajuster leurs tirs et trouver les adresses des patriotes.
Pour contrer ce qu'ils qualifient volontiers de cinquième colonne, à la solde de Vladimir Poutine, le maire de Konotop a tapé du poing sur la table début mai.
J'ai signé un arrêté pour interdire toutes les activités de l'Église orthodoxe russe sur la commune. Mais l'Église n'a pas obéi. Ensuite, on a reçu l'ordre de Kiev de protéger leur lieu de culte. Au lieu de surveiller l'ordre public, la police a fait des patrouilles pour m'empêcher de fermer les églises russes.
Le sacristain de l'Église de l'Ascension, l'une des 10 églises orthodoxes russes de Konotop, se lamente d'entendre tous les jours des mots peu amènes.
Fermez votre église, on va vous punir. Vous êtes des moscovites.
Le maire de Konotop ne se sépare plus de son semi-automatique. Il y a encore des espions en ville, affirme-t-il.
Valérie Crova et Laurent Maquetti, envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine. Renault annonce donc la cession de sa filiale en Russie ce matin. C'est la conséquence des sanctions européennes. Ses actifs sont désormais la propriété de l'État russe, selon le ministère de l'Industrie à Moscou. Mais Renault conserverait la possibilité de les racheter dans les 6 prochaines années. Une guerre et des sanctions. Les ministres des Affaires étrangères de l'Europe vont de nouveau tenter d'arracher l'accord de la Hongrie aujourd'hui pour décréter l'embargo sur le pétrole russe. Signe fort, Delphine Simon, qui ne sera pas sans conséquence sur les prix à la pompe.
La France importe 12% de son pétrole brut de Russie, jusqu'à 30% pour le diesel. Mettre fin à cette dépendance ne sera pas sans conséquence. Les stocks d'État prévoient 3 mois de consommation, mais après, où s'approvisionner ? La liste est longue, explique Olivier Gantois, président de l'Union des importateurs de pétrole.
États-Unis, Canada, les pays du Moyen-Orient, ce sont les mêmes qui pourront proposer à la fois du pétrole brut ou du gazoil. On va pouvoir réorganiser les flux pétroliers de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact pour le consommateur.
Certains fournisseurs comme Total Energy ont déjà arrêté d'importer, mais l'annonce d'un embargo aura sans nul doute un impact sur les prix à la pompe. Jusqu'où risque-t-il de flamber ? Trop tôt pour le dire, tout dépendra aussi de la capacité des entreprises à amortir le choc, selon Anna Créti, qui dirige la chaire économie du climat à Paris Dauphine.
On a vu par exemple déjà la grande distribution faire des sacrifices sur leur marge pour garder des parts de marché importantes. Et d'autres entreprises qui sont quand même un peu plus près de leur coût de production. C'est vrai, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y en a une de certitude, c'est que ça va coûter cher.
Mettre fin à cette dépendance va prendre du temps. Voilà pourquoi un embargo ne sera pas effectif avant 6 mois.
Delphine Simon, il a tonné depuis la fin de journée d'hier. Des orages sur une bonne moitié ouest de la France. 28 000 impacts de foudre et des coupures de courant. Hier soir, 7 000 personnes étaient privées d'électricité en Normandie et dans les pays de la Loire. Dans le massif du Bargy, en Haute-Savoie, il y a des bouquetins malades. Et c'est un problème parce qu'atteints de la brucellose, ils peuvent la transmettre aux vaches et aux bœufs. La préfecture a donc décidé d'autoriser l'abattage de la moitié des bouquetins de ce massif, jusqu'à 170 animaux. Sauf que les associations de protection de l'environnement, Louis Fontaine, portent l'affaire en justice.
Actuellement, dans le massif du Bargy en Haute-Savoie, le taux d'infection des bouquetins à la brucellose se situe entre 4 et 10%. Ce taux a été divisé par 10 en 5 ans. Pour Jean-Pierre Crouza, le vice-président de France Nature Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, abattre ces bouquetins n'est pas la bonne solution.
Il suffit de poursuivre les captures avec euthanasie des séropositifs pour que l'infection descende en dessous du seuil d'extinction naturelle. Il y a ce qu'on appelle les mesures de biosécurité. En séparant de manière très stricte les zones de pâture pendant quelque temps sur le cœur du massif du Bargy et ainsi viser le risque zéro.
Cette bactérie inquiète fortement les agriculteurs et pour preuve, en décembre dernier, un éleveur au Savoyard a dû envoyer ses 224 vaches à l'abattoir à cause d'un cas de brucellose. Pour le président des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie, Guillaume Léger, on ne peut plus prendre aucun risque.
C'est extrêmement marquant, ça a été extrêmement difficile pour les éleveurs concernés. Au-delà de l'aspect humain, il y a effectivement l'aspect financier, il y a la valeur des vaches qui peut varier, mais une vache laitière, c'est 1600, 1700 euros en elle-même.
Contacté, le préfet de la Haute-Savoie, Alain Espinasse, estime que la santé publique est la priorité de ce dossier. D'ailleurs, aujourd'hui, la bactérie est toujours là. 4 bouquetins ont récemment été contrôlés positifs à la brucellose.
C'est l'immense suspense de cette fin de saison de foot. Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG la saison prochaine? La question lui a été posée hier soir alors qu'il recevait le prix UNFP de meilleur joueur de Ligue 1. Réponse, j'ai presque pris ma décision. Je la révélerai avant le prochain match des Bleus le 3 juin. Autre suspense insoutenable, Gaston reviendra-t-il? La gaffe de son nom, héros de Franquin, que ses filles ne veulent pas voir revenir sous la plume de quelqu'un d'autre. Leur père, disent-elles, ne le souhaitait pas. Or, les éditions Dupuis ont décidé de confier le grand escogriffe au dessinateur canadien Delaf et publier une première planche dans Spirou le mois dernier. La justice belge tranchera le litige aujourd'hui. Mais c'est tout vu pour Philippe Gueluc, belge et auteur de BD lui-même. Quand c'est non, c'est non.
J'ai vu cette planche dans le journal de Spirou et j'ai immédiatement ressenti un malaise. C'est-à-dire que c'est très bien dessiné, c'est très bien fichu, c'est à la Franquin. Mais moi, je vois au premier coup d'œil que c'est pas lui. Parce que c'est une œuvre tellement personnelle. Franquin a travaillé une vie entière à créer ce personnage génialissime, avait un trait supérieur à tous ceux qui pourraient essayer de le reproduire et a signifié clairement qu'il ne souhaitait pas que quelqu'un d'autre reprenne Gaston après lui. Alors, certes, des dessinateurs brillants et des auteurs géniaux ont accepté cette éventualité. Astérix est redessiné, Lucky Luke est redessiné, etc., etc. Mais c'est le droit d'auteur, c'est le droit moral de dire on ne le souhaite pas. Je suis d'autant plus sensible à cette problématique que j'ai moi-même déjà signifié de nombreuses fois publiquement, mais auprès des miens, auprès de mon notaire, que je souhaitais que personne ne dessine le chat après moi.
Philippe Gueluc avec Alexis Demeyer. La parution, si elle était maintenue, est prévenue le 19 octobre avec un tirage à 1,2 million d'exemplaires. Non aux cadences infernales, aurait dit Gaston.
Oui, et la mouette, merci. Beaucoup la mouette, moi, chez Gaston. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, ça reste orageux sur le nord-est ce matin.
Et oui, Nicolas Caller, perturbation arrivée hier s'échappe par l'Allemagne et la Suisse et on retrouve donc ces orages de la Lorraine à la Bourgogne. Sur la moitié nord, les nuages sont encore nombreux, aussi poussés par un bon petit vent de sud-ouest, donnant quelques averses encore sur la Bretagne et le nord. Au sud de la Loire, par contre, vous passerez une matinée ensoleillée avec quelques entrées maritimes sur le Languedoc. Et le jour s'est levé dans une ambiance très douce et contrastée entre les 19 relevés à Roubaix et 18 à Épinal, alors qu'il fait 8 à Figari et 9 en Haute-Loire. Vous avez 12 à Millau et 17 à Bordeaux, Paris, Lille, comme Nice ou Lyon.
Et le temps reste lourd cet après-midi.
Oui, avec cette évolution diurne, une reprise des orages est attendue sur la Haute et Basse Normandie, ainsi que sur l'Alsace et la Lorraine, mais aussi sur les Alpes. Et on attend également des averses orageuses, des Vosges au Jura, au Massif Central, ainsi que sur le relief Corse et Pyrénéen. Et puis sur le Languedoc, on aura toujours ces entrées maritimes qui vont résister. Partout ailleurs, vous passerez un lundi au soleil, avec parfois quelques nuages d'altitude et sous des températures bien élevées dans le sud, alors que sur le nord, le mercure accusera une certaine baisse, mais on restera malgré tout 3-5 degrés au-dessus des normales, avec 21 attendus à Cherbourg, 24 à la Tour d'Auvergne, 23 à Lille comme à Saint-Jean-de-Luz, comptez 26 à Paris comme à Montpellier, 29 à Bordeaux et 30 à l'Est.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18. Géopolitique, Pierre Assel.